fait une pause dans notre série de prédications dans Matthieu. Et ce matin, j'aimerais parler d'un sujet qui, j'espère que tous les matins, ça nous concerne tous, toujours, mais qui concerne en tout cas notre vie quotidienne, notre vie de communion avec Dieu. Donc c'est un sujet qui a une importance de chaque instant. Il s'agit ici de la prière. Et j'aimerais voir un texte avec vous, et un ensemble de textes qui vont nous aider à comprendre mieux ce passage. Et au travers de ce texte, vous montrer une puissante motivation pour la prière, ou un encouragement puissant pour la prière, on pourrait dire. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset 23. Et je vais être un peu plus dépendant de mes notes que d'ordinaire. J'espère que ce ne sera pas une gêne pour pouvoir suivre. Nous sommes quelques heures avant l'arrestation du Seigneur Jésus et quelques heures avant sa crucifixion. Et le voilà en train de prier dans ce chapitre. Et nous lisons au verset 23. Je vais prendre à partir du « afin ». Donc « afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Le « afin », c'est la prière d'unité. C'est la prière aussi en lien avec le fait que la parole qui concerne Jésus va être crue par plusieurs. Il va prier non seulement pour les apôtres, mais aussi pour ceux qui croiront la parole des apôtres. On pourrait lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 23 pour avoir du contexte, mais par souci de gain de temps, on va se concentrer simplement sur la fin de ce verset. Je relis. « Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Si je devais donner un titre à cette prédication, ce serait le suivant. Le Père nous aime comme il a aimé le Fils. Deux points. Un encouragement puissant pour la prière. Le Père nous aime comme il a aimé le Fils. Un encouragement puissant pour la prière. Tout vrai chrétien est un prieur ou une prieuse. Il n'est peut-être pas forcément un maître en la matière. Ce n'est peut-être pas le plus excellent des prieurs, mais le plus faible des chrétiens est un prieur. Par nécessité. Être chrétien, c'est être en relation avec Dieu par la foi en l'Évangile, l'œuvre de son Fils, n'est-ce pas, qui nous fait recevoir l'Esprit de Dieu, qui suscite en nous des soupirs parfois, quelques mots, de courtes prières, pour certains de plus longues prières, mais toute personne réellement née de nouveau, naturellement, prie. Mal peut-être, mais priera, c'est certain. Et ce matin, donc, j'aimerais vous aider à réfléchir à l'une des plus étonnantes vérités de toute la Bible, à mon sens. C'est ce qu'on vient de lire, le fait que le Père aime chacun des chrétiens comme il aime son Fils Jésus-Christ. Je ne sais pas si on est toujours conscient du caractère stupéfiant de cette affirmation. Que Dieu aime Jésus et qu'il l'aime de manière distincte, on pourrait le comprendre, n'est-ce pas ? Qui n'aimerait pas Jésus une fois qu'il le connaît ? Le seul homme à avoir vécu sans péché, à avoir aimé son prochain comme lui-même, et à avoir aimé Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, de toute son âme, chaque respiration, chaque instant de sa vie. Christ est digne d'être aimé du Père et d'être aimé d'un amour parfait. Mais voilà que Jean nous affirme dans ce texte que nous avons lu, en nous relatant la prière du Seigneur Jésus, que le Père aime les chrétiens comme il a aimé Jésus, son Fils. Il y a certaines choses que le Seigneur Jésus a faites que nous ne pouvons pas imiter et que nous ne pourrons jamais faire. Il demeure à part. C'est une évidence. Il est le Fils unique de Dieu. Il est à part dans bien des domaines. Nous pouvons penser à ses miracles, nous pouvons penser à sa transfiguration, nous pouvons encore penser à la valeur de sa mort expiatoire à la croix. Mais dans plusieurs autres domaines, il est notre modèle. Et c'est le cas en particulier dans le domaine de la prière. Jésus, qui était aimé parfaitement par le Père et qui connaissait parfaitement l'amour du Père pour lui, pouvait prier comme aucun autre homme n'a jamais prié, comme aucun prophète n'a jamais prié. Or, la Bible, je l'ai dit et je le répète ici, nous dit que toute personne qui est devenue enfant de Dieu par la foi au Messie a sur lui une faveur toute semblable à la faveur du Père envers son Fils bien-aimé. Et il me semble que si nous avions un peu plus en conscience cette vérité, nous aurions moins d'obstacles dans la prière. Et je vais un peu développer ici en montrant trois aspects de l'amour de Dieu pour le Fils Jésus-Christ, qui ensuite peuvent nous encourager à une vie de prière beaucoup plus généreuse, abondante, confiante, épanouissante. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais réaffirmer quelque chose, la vraie humanité de Jésus. Il est Dieu de Dieu, évidemment, il est le créateur de toutes choses, mais il s'est incarné et a été vraiment humain. Et si nous sous-estimons sa vraie humanité, nous en viendrons à avoir des difficultés à nous considérer aimés, comme le texte nous le dit ici, c'est-à-dire aimer comme le Père a aimé Jésus. Juste un texte qu'on peut lire pour terminer sur ce thème de la vraie humanité de Christ, Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Voilà ce qu'il nous est dit, Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11, concernant la nature de notre Seigneur Jésus. On peut même commencer au verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Et je lis dans la traduction Colombe. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Vous voyez, volontairement, il s'est dépouillé, abaissé. Il a voilé sa gloire et ses prérogatives divines. En prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je ne vais pas évidemment expliquer en détail ce texte, mais je voulais simplement attirer notre attention sur l'affirmation claire et sans ambiguïté que Jésus-Christ a partagé notre humanité, une vraie humanité, tout en restant Dieu de Dieu, l'Éternel, le Créateur du monde, le Créateur des cieux et de la terre. Nous allons voir à présent des éléments, des aspects de l'amour du Père pour le Fils. Nous allons en voir trois. J'affirme, et j'essaierai de le montrer, que l'amour du Père pour le Fils est un amour de permanence, un amour de proximité, et un amour de prodigalité. Un amour de permanence, c'est-à-dire un amour qui est de tout temps, qui jamais ne cesse, jamais ne change. Il est un amour de proximité, c'est-à-dire un amour qui se veut sympathisant, qui veut partager les intérêts, qui veut être avec l'être aimé, un amour de proximité. Et troisièmement, un amour de prodigalité, hein, un amour généreux, un amour qui donne avec abondance et non pas de manière avare. Voyons donc le premier aspect de cet amour du Père pour le Fils. L'amour du Père pour le Fils est un amour d'abord donc de permanence. Une chose dont la Bible nous parle clairement, c'est l'harmonie parfaite qui existe, entre les trois personnes de la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et cette harmonie, cette unité parfaite qui existe bien avant la fondation du monde. Dans l'éternité passée, on pourrait dire. Et puisque Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous ne devrions pas penser qu'il puisse y avoir un changement dans la qualité et dans la force de son amour. Un faiblissement quelque part. Impossible. Rien de ce qui fait que Dieu est Dieu ne peut changer, diminuer. Souvenez-vous de ce que Jacques dit. Il est le Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation même. Ainsi, quels que soient les événements, quoi qu'il arrive, le Père aime le Fils d'un amour parfait. Et si nous revenons donc dans Jean chapitre 17, regardez ce que nous lisons au verset 24, Jean 17, toujours la prière du Seigneur, il dit « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés, c'est-à-dire les chrétiens, soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Ainsi donc, l'amour que Christ a reçu dans sa vie terrestre n'a pas commencé au moment de l'incarnation. C'est un amour éternel. Mais lorsqu'il s'est incarné, de la même manière, il a été comme poursuivi toujours par cet amour de Dieu, entouré par cette faveur du Père. Depuis le ventre béni de Marie jusqu'à la croix de Golgotha, dans la mort même, la résurrection, dans son ascension, le Fils a été continuellement aimé par le Père. Et j'ai dit oui, même à la croix. Comment est-ce qu'on le voit? Eh bien, même si le Seigneur dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a une sorte de véritable abandon ici. Mais même à ce moment-là, il est aimé par celui dont David dit « même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, et ainsi je ne crains aucun mal. » Ne va-t-il pas prier avant de rendre le souffle? Je remets mon esprit entre tes mains. Quelques chapitres plus tôt, nous lisons plusieurs paroles de Jésus dans l'évangile de Jean qui confirment ce que nous disons ici. L'amour du Père pour lui est permanent, incessant, continu et en tout temps. Voici trois passages que je vais lire sans les commenter. Chapitre 3, verset 35. Écoutez bien. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Chapitre 5, verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Un dernier passage, chapitre 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Alors ici, il n'y a pas le mot amour, mais je vous ai parlé tout à l'heure du fait que l'amour, une des caractéristiques, c'est le désir d'être avec. Et il dit ici, celui qui m'a envoyé est avec moi. Alors j'ai insisté, et j'ai voulu rendre clair ce que vous savez certainement déjà, cet amour du Père pour le Fils. Mais maintenant, je vous dis que c'est aussi de cette manière que le Père vous aime si vous êtes chrétien. Si vous êtes né de nouveau, le Père vous aime comme il aime le Fils, d'un amour permanent. Mais une différence, c'est qu'il vous aime de manière permanente alors que vous ne faites pas toujours ce qui lui plaît. Dieu vous aime de cette manière parce que Christ est en vous et vous êtes unis à Christ par la foi. Et souvenez-vous de cette image, on parle de Christ comme étant la tête de l'Église qui est son corps. Et ainsi, si nous symbolisons l'amour de Dieu et sa faveur par l'huile d'onction, hein, l'huile qui manifeste le bon plaisir de Dieu, qui choisit un homme, voilà notre tête Jésus, le chef de l'Église. Le Père déverse sa faveur sur sa tête et nous, son corps, les membres de son corps, nous sommes aussi parfumés de cette huile parce que nous sommes unis à Jésus. Et j'affirme donc que c'est pour cela que nous pouvons prier et que nous devons prier au nom de Jésus. C'est-à-dire sur la base de ce que Jésus est et sur le fondement de ce qu'il a fait pour nous. C'est par Jésus que nous avons accès au Père et ainsi, il y a un grand encouragement quand nous prions. Ne cherchons pas en nous des arguments pour être exaucés, mais présentons à Dieu l'argument infaillible que lui-même nous a donné, son Fils Jésus, la croix de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je pense que c'est un encouragement puissant pour la prière? Eh bien, si déjà Dieu devait nous aimer à cause de notre obéissance, nous ne serions jamais aimés, soyons clairs. Mais le fondement de la prière et la réponse de Dieu, toujours, c'est qu'il vous aime en Jésus-Christ. Au moment où vous faites monter à Dieu une prière, si vous êtes chrétien, l'amour de Dieu est intact et plein, complet. Il a commencé dans l'éternité, Paul le dit notamment dans l'épître aux Éphésiens. Avant la fondation du monde, Dieu nous a prédestinés à devenir ses enfants d'adoption. Cet amour est permanent maintenant et il continuera pour l'éternité. Je relis ce verset 23 du chapitre 17, en tout cas la fin du verset 23. Afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. J'en viens à une application plus précise sur l'encouragement que ça doit constituer pour nous. Certains pensent que le péché qu'ils ont sur la conscience au moment de prier est une raison de ne pas prier, ou c'est une cause de séparation temporaire d'avec Dieu. Et ce texte nous montre que l'amour de Dieu ne change pas. Dieu connaît tout d'avance et il savait d'avance tous les péchés que vous feriez. Il savait que vous seriez, jusqu'à ce que la gloire vienne, le retour de Jésus, vous seriez encore en train de lutter avec le péché. Et il a quand même livré son Fils à la croix pour vous adopter dans sa famille et vous bénir. Certes, Dieu veut et va vous rendre parfait et obéissant, mais Dieu n'est pas étonné lorsque vous venez à lui et que vous n'avez pas de perfection à lui présenter. Son amour est permanent et c'est cette permanence qui est le fondement de notre prière. Lorsque vous avez donc un péché qui pèse sur votre conscience, confessez-le à Dieu. Demandez à Dieu son pardon renouvelé. Repentez-vous, mais priez. Parce que l'amour de Dieu pour vous, si vous êtes chrétien, est permanent. Et comme Jean le dit, il est fidèle et juste pour vous pardonner vos péchés que vous confessez à cause du sang de Jésus-Christ. Il vous aime avant que vous commenciez de prier. Il vous aimera après le moment de la prière. Ne vous aimerait-il pas au moment où vous priez? Deuxième aspect de l'amour du Père pour le Fils, un amour de proximité. Nous avons vu cet amour d'abord permanent qui ne cesse jamais et qui, du coup, à tout moment, nous encourage quelque part à prier, quelles que soient les circonstances. Maintenant, un amour de proximité. C'est ce type d'amour qui prend plaisir, je l'ai dit tout à l'heure, à être proche, à être en communion, à être intime avec les intérêts de l'être aimé. C'est ce que nous avons lu, ou c'est ce que nous allons lire, pardon, au verset 22, si vous relisez avec moi donc le verset 22 du chapitre 17. Alors, on ne l'a pas lu juste avant. « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Cette idée d'unité. Et si vous regardez le verset 24, celui-là, nous l'avons lu. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Vous voyez ce que fait l'amour ? Il veut être uni, il veut être avec l'être ou les êtres aimés. Partager la communion. Nous avons vu la proximité de l'amour du Père pour le Fils avant l'incarnation, puisque tout à l'heure on parlait du fait que cet amour a commencé avant la création du monde. Mais sur terre, lorsque le Fils a pris une nature humaine, le Père était toujours aussi proche de lui. Je relis, vous n'êtes pas obligé de tourner, mais ce qu'on a lu dans Jean chapitre 8, verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi je fais toujours ce qui lui est agréable. » Autrement dit, s'il fait toujours ce qui est agréable à Dieu, ça sous-entend que Dieu est toujours avec lui. Et cela va durer pour l'éternité parce que le Fils ne change pas non plus. Et donc le Père est avec le Fils dans ce qu'il a vécu sur la terre, par amour. Ce que le Fils fait lui plaît en tout temps. Et l'une des choses que le Fils fait et qui plaît au cœur de Dieu particulièrement, c'est la prière. Nous voyons dans les évangiles que Jésus était un homme de prière. Cette prière notamment qui consistait à rester fidèle à sa mission pour nous sauver et nous donner un accès auprès de Dieu. D'ailleurs, le texte principal de ce matin, n'est-ce pas, le verset 23, est tiré d'une prière du Christ. C'est dans cette prière qu'il dit qu'il veut que le monde sache que les chrétiens sont aimés du Père comme Jésus lui-même est aimé du Père. Qu'est-ce que j'essaye de souligner ici ? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que cette proximité d'amour implique que le Père n'est pas en train d'aimer à distance et d'être un peu réservé sur les intérêts du Christ, sur ses besoins, sur ses attentes, sur ses désirs. Mais cet amour de proximité conduit le Père à être pleinement dans ce que fait le Fils, pleinement impliqué, intéressé. Le prophète Amos pose la question suivante. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Une façon de dire, est-il possible que deux êtres qui travaillent ensemble, qui s'investissent dans différents projets ensemble sur la longueur, le fassent sans un minimum d'harmonie? Et si nous pouvons voir deux hommes s'entendre, quelle doit être l'unité et l'entente entre le Père et le Fils? Et savoir cela, je vous le dis, c'est retenir quelque chose d'extrêmement important si vous voulez progresser dans votre vie de prière. Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez reçu l'esprit d'adoption qui en vous crie « Père ». Romains 5, verset 5 nous dit que l'amour de Dieu est déversé dans vos cœurs de chrétiens par le Saint-Esprit. Ainsi, lorsque vous priez, n'ayez pas cette fausse impression que Dieu est éloigné de vous. On a parfois ce sentiment, n'est-ce pas, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe, mais cette impression n'est pas conforme à la foi. Nous vivons par la foi et non par les sentiments. Et vous voyez comment le fait de savoir que Dieu est toujours proche enlève des obstacles à la prière. Je commence à prier et je ne suis pas bien, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai l'impression que Dieu est loin, j'ai l'impression. Et je reviens aux Écritures, afin que le monde sache que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et nous sommes en train de voir que cet amour est un amour de proximité, un amour permanent. Mais non, Seigneur, tu n'es pas loin. Tu es là, Dieu avec nous, Emmanuel. Quel encouragement pour la prière. Quel tremplin pour dépasser, n'est-ce pas, les murs qui, dans nos consciences, dans nos pensées confuses parfois, s'élèvent pour nous donner l'impression d'être séparés de Dieu. Pour être plus précis, si vous êtes unis avec Christ, vous êtes en communion avec le Père, et donc, puisque le Père vous aime comme il a aimé le Fils, il plaît à Dieu de s'intéresser à vos prières. Il plaît à Dieu que vous lui demandiez ce dont vous avez besoin. Dieu s'intéresse à vos désirs, à vos projets, à vos craintes, à vos interrogations. Lorsque vous priez la volonté de Dieu, Dieu n'est pas froidement sur son trône, en train de, éventuellement, quelquefois, accepter, parce qu'après tout, bon, c'est sa volonté. Mais Dieu est tout à fait avec vous. Vous faut-il de la sainteté? C'est la volonté de Dieu. Lorsque vous le lui demandez, Dieu est à fond avec vous. Vous faut-il plus de patience? N'est-ce pas la volonté de Dieu que nous soyons plus patients pour lui ressembler? Vous pouvez prier avec l'assurance qu'au nom de Jésus, Dieu est, on pourrait dire trivialement, à fond avec vous pour cette demande. Est-ce que vous avez l'intérêt de demander à Dieu que son règne vienne? En tant que chrétien, oui. Vous pouvez être certain que cette prière ne tombe pas dans une oreille sourde, mais dans l'oreille du Dieu qui partage avec vous le même intérêt, que son règne vienne. Voulez-vous voir des conversions? Voulez-vous voir le message de l'Évangile se répandre davantage? Des ouvriers se lever pour annoncer cette bonne nouvelle du salut? Voulez-vous voir autour de vous plus d'occasions d'annoncer les vertus de Jésus-Christ? Mais Dieu ne le veut pas moins. Et lorsque vous priez, quel encouragement de savoir que l'amour de Dieu est un amour de proximité, un amour proche, qui partage vos intérêts, vos désirs, vos aspirations. On pourrait multiplier les exemples, mais nous allons passer au point suivant. Nous avons vu que l'amour de Dieu est un amour permanent, en tout temps. Que je me sente bien ou mal, Dieu m'aime d'un amour parfait, l'amour qu'il a eu et qu'il a pour le Fils, Jésus-Christ. Nous avons vu que Dieu nous aime d'un amour de proximité, un amour qui n'est pas détaché, qui n'est pas froid, mais qui veut être avec et sympathiser et partager. Pour terminer, troisième point, l'amour du Père pour le Fils est un amour de prodigalité, un amour de générosité abondante, un amour qui n'est pas avare. Le Seigneur Jésus a fait beaucoup de choses pour montrer à ses disciples qu'il était vraiment le Fils bien-aimé du Père, des miracles notamment, l'attitude qu'il avait lorsqu'il priait. Nous le voyons au chapitre 9, par exemple, lorsqu'il va répondre à une des questions des apôtres. Chapitre 9 de Jean, si vous voulez bien tourner à cet endroit. Les 5 premiers versets. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent : Rabbi, ce qui veut dire maître qui enseigne, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler, tant qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. En résumé, le Seigneur est en train de dire, cet aveugle né, Dieu l'a permis et même l'a voulu, parce que je vais faire un miracle, le guérir, et vous montrer ainsi que le Père m'exauce, que je suis bien celui que je prétends être. Il ne doutait pas, non seulement de la volonté du Père de l'exaucer toujours, mais il ne doutait pas non plus de la grande générosité de Dieu. Que Dieu allait répondre, non pas chichement, hein, en calculant, en comptant le nombre de prières, et en se disant, mais peut-être il y a un quota hein, à ne pas dépasser. Mais le Seigneur savait quelle était l'abondance de la générosité du Père. D'où l'abondance des miracles. D'où le fait que Jean, à la fin de son évangile, va dire, le Seigneur a aussi fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas racontées dans ce livre, car si on les écrivait, ça prendrait une place monumentale. Quelle assurance Jésus avait lorsqu'il priait. Regardez avec moi chapitre 11, versets 41 et 42. Et on va arriver à quelques applications pour terminer sur ce point. Jean chapitre 11, versets 41 et 42. Nous sommes ici dans le contexte de la mort de Lazare. Le Seigneur a appris la mort de Lazare et il a temporisé. Parce qu'il voulait montrer, encore une fois, que Dieu l'exauce et qu'il est capable de ressusciter les morts, qu'il est la résurrection et la vie. Et voilà ce que nous lisons au verset 41. Le Seigneur est devant la tombe, il leur demande d'ôter la pierre. Ils ôtèrent donc la pierre, Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, pour moi, ou c'est une façon de dire quant à moi, en ce qui me concerne. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Autrement dit, le Seigneur est en train de dire, ma prière que je viens de faire à haute voix, que je viens de faire publiquement, que j'ai faite devant cette foule. C'est pas l'expression de l'incrédulité, tu le sais, Père, mais c'était pour que la foule voie que tu m'exauces. Quelle assurance, le Seigneur dit, je savais. Le savez-vous, chrétien ? Le savez-vous que lorsque vous vous approchez du Père céleste, qui n'a pas refusé de donner son Fils, ce qu'il y a de meilleur dans l'univers, le savez-vous et le réalisez-vous que Dieu ne vous a pas donné son Fils pour ensuite avoir du mal à mettre la main, pour parler de manière terrestre, la main à la poche, et nous donner quelques bénédictions spirituelles en plus ? Est-ce que nous pouvons penser raisonnablement qu'il y a un trésor de bénédiction à côté de Dieu, hein, on peut l'imaginer de cette manière, un trésor de bénédiction, de la patience, de la joie, de la foi, de l'amour, de la bienveillance, et la liste est longue. Et que ce trésor de bénédiction, hein, dont nous avons été bénis dans les lieux célestes, Éphésiens 1, est là à côté du Père, et que le Père, lorsque nous prions, qu'il nous ouvre ce coffre à cause de l'œuvre de Jésus-Christ et les déverse sur nous, est-ce que nous pouvons raisonnablement penser que le Père hésite après qu'il nous ait donné ce qui vaut mille fois plus, infiniment plus que toutes ces bénédictions spirituelles rassemblées ? Son Fils Jésus, l'image du Dieu invisible. nous devons, je le dis, nous repentir de certaines de nos pensées au sujet de Dieu. Nous avons parfois, et c'est ce que Andrew Murray disait dans un autre contexte, et je suis assez d'accord avec lui, que nous avons souvent des pensées cruelles au sujet de Dieu. Nous avons une vision de Dieu, d'un Dieu qui, oui, il est ce souverain, ce qui est vrai, mais que sa souveraineté ne l'utilise pas tellement pour bénir. Lorsque Dieu bénit, de temps en temps, il est motivé pour le faire, et d'autres fois, on doit comme lui arracher la bénédiction. Dieu est le Père des Lumières, Jacques chapitre 1, duquel descend tout don parfait. Nous devons nous souvenir de ce que Jésus dit. Vous vous souvenez probablement lorsque les disciples lui disent « Apprends-nous à prier ». À la fin, il va dire « Demandez et vous recevrez ». Et il donne cette image. Il dit « Lequel d'entre vous, si son fils lui demande un œuf, lui donnera un scorpion ? Ou s'il lui demande un morceau de pain, lui donnera-t-il une pierre ?» Et Jésus ajoute « Si méchant comme vous l'êtes, vous, humains, mes disciples, donc vous qui êtes devant moi, avec moi, si méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses, Jésus ajoute, combien plus le Père, qui n'est pas méchant, mais qui est la bonté même, qui est le Dieu de toute miséricorde et de toute grâce, combien plus nous donnera-t-il ce dont nous avons besoin et ce que nous lui demandons ? Je finis ici, en rappelant et en appelant. Un rappel, nous avons vu l'amour de Dieu, un amour permanent. Vous pouvez même prier maintenant et obtenir des réponses, alors même que je parle à vos demandes, si vous réalisez avec foi, hein, parce que vous ne recevrez rien, le Seigneur le dit, si vous ne priez pas avec foi. C'est quoi prier avec foi ? C'est prier en croyant que ce que Dieu dit est vrai. À son sujet, et au sujet de sa volonté et de la prière. Un amour permanent, un amour proche. Dieu s'intéresse à tous les détails de vos vies, à tout ce qui vous intéresse. Ce qui n'implique pas qu'il dira toujours oui, parce que lorsque nous demandons des choses qui ne sont pas bonnes, il nous dira non, mais il nous aura répondu. Et l'amour de Dieu est un amour, enfin, de prodigalité, généreux, abondant. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, n'est-ce pas ? Dieu n'est pas un Dieu chiche, avare. Voilà le rappel. Voilà l'appel, maintenant. Je n'ai pas le pouvoir de voir les âmes, ni les cœurs. C'est pour ça que cet appel est, je pense, nécessaire, et dans une assemblée aussi nombreuse que la nôtre, même si nous sommes relativement petits comme troupeau, il peut y avoir l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, qui n'est pas au bénéfice de cet amour de Dieu, de cet amour permanent, de cet amour proche, de cet amour prodigue. Et cette personne n'est pas au bénéfice de cet amour parce qu'elle est dans une condition d'inconversion. Elle est donc privée du privilège d'avoir le Dieu du ciel avec soi, pour soi. Le psaume 7 est très clair. Dieu est en colère contre le pécheur tout le jour. Le proverbe au chapitre 28, verset 9, est très clair. La prière du méchant, c'est-à-dire de l'inconverti, est en abomination, en horreur à l'Éternel. Où est-ce que je veux en venir ? Eh bien, peut-être que l'une des raisons pour lesquelles vous ne priez pas, certains d'entre vous, je ne sais pas qui, c'est peut-être justement parce que vos prières ne sont pas encore des prières agréables aux oreilles de Dieu, et que vous devez commencer par prononcer la première prière qui vous fait entrer dans une relation réconciliée avec Dieu. De quelle prière je parle ? Alors, ce ne sont pas des mots magiques, ce n'est pas une formule à prononcer qui sera efficace en elle-même. Mais c'est une disposition d'esprit. Aie pitié de moi, Seigneur, un pécheur. Voilà comment un grand pécheur a prié lorsqu'il était au temple, et Jésus a assuré qu'il est rentré chez lui, justifié devant Dieu. Avez-vous déjà prié de cette manière ? Avez-vous pris le temps de considérer les raisons qui vous séparent de Dieu, vos fautes, vos péchés, vos rébellions non confessées, vos auto-justifications? Et avez-vous considéré la croix de Jésus-Christ, qui est comme un appel à chacun d'entre nous, à chacun des pécheurs, un appel à venir avec cet étendard de la paix de Dieu et de lui dire « J'accepte, j'accepte, reçois-moi, aie pitié de moi, un pécheur. » Et sur l'autorité des paroles de Jésus-Christ, tout pécheur qui priera ainsi, avec un cœur sincère et repentant, un cœur de foi, recevra la vie éternelle, recevra l'accès gratuit auprès du Père et se verra enfin au bénéfice de cet amour permanent, de cet amour de proximité, de cet amour prodigue. Oh, que personne ne se prive des délices d'être en communion avec le Dieu qui répond aux prières de ses enfants. Que Dieu vous encourage, vous tous qui êtes chrétiens, à prier avec audace, avec enthousiasme, et que Dieu accorde la repentance à quiconque en a besoin. C'est ma prière.